Donc aujourd'hui, nous allons voir le fait que Dieu se soit fait homme. On a chanté « Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu ». Mystère inépuisable, fontaine du salut. Il y a beaucoup de choses dans ces paroles. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. On n'aura pas fini d'essayer de comprendre cela, mystère inépuisable, et c'est la source du salut. C'est là d'où découle le salut pour tous les hommes. Quelle que soit leur religion, c'est là d'où découle le salut, le fait que le Christ se soit fait homme. Alors, l'Église appelle le fait que Dieu soit fait homme l'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu rentre dans la chair, dans la carne, incarnation. Vous avez ce terme qui n'est pas dit comme cela, mais qui exprime l'idée dans le chapitre 1 de Saint Jean, au verset 14, « Et le Verbe s'est fait chair ». Le terme grec « chair », c'est « sarx ». Ça veut dire « et le Verbe s'est fait viande ». Voilà. Dieu qui est infini, qui est incorruptible, qui est tout-puissant, s'est fait atome, s'est fait chair, s'est fait sang, s'est fait os, s'est fait limité. Le Verbe s'est fait chair. C'est l'incarnation. Il nous faut dépouiller, j'allais dire, une habitude religieuse chrétienne de « c'est convenu, le Christ s'est fait homme, c'est convenu ». Il faut retrouver cet émerveillement, voire même nous poser la question « mais c'est incroyable, ça paraît extraordinaire, ça paraît presque pas possible ». Parce que c'est un vrai scandale pour nos frères et sœurs juifs, pour nos frères et sœurs musulmans, et pour tout homme d'autres confessions, le fait que Dieu se soit fait homme, c'est quelque chose de proprement impensable, révolutionnaire. Nous nous y sommes trop habitués, mais c'est pourtant le premier mystère important de notre foi, l'incarnation, mystère central. Il y a aussi le mystère central du mystère pascal, la mort et la résurrection. Mais il faut avoir conscience que c'est extraordinaire et que quelque part, il faut se sentir dépassé par ça. Jamais nous ne ferons le tour du fait que Dieu se soit fait homme. Et ce sera sans cesse une voie d'exploration. Le Verbe s'est fait chair. Pourquoi Dieu s'est fait homme? L'Église nous enseigne qu'il y a quatre raisons pourquoi Dieu s'est fait homme. La première, Dieu s'est fait homme pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Quand Dieu se fait homme, quand la deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, le Fils éternel, se fait homme, il prend un corps d'homme, on va en parler, il devient homme, on l'appelle Jésus à ce moment-là, et il vient là pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de salut tant que Dieu ne se soit pas fait homme. Et il vient pour nous sauver. C'est ce que nous avons proclamé dans la parole de Dieu en Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Et l'idée de donner son Fils, c'est quoi? C'est l'incarnation. C'est l'incarnation qui va conduire nécessairement à la passion et à la mort sur la croix. Et vous avez dans Jean 3, 16... Vous pouvez le mettre en lien avec l'épître de Philippiens 2, où Dieu qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant et obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez, il y a une dimension de l'incarnation qui vient pour donner le salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Donc la porte du salut nous est ouverte par le fait que l'incarnation se fasse en Jésus. C'est pour ça que Jésus dit en Jean 10, « Je suis la porte ». La porte du ciel, elle se passe par la médiation de l'humanité de Jésus, de l'humanité prise en Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu a voulu nous réconcilier. Donc, j'allais dire, vous voyez, on est dans une chapelle, vous imaginez, il n'y a pas d'ouverture, on n'a pas accès à Dieu. Dieu va faire une brèche dans le mur pour nous donner accès. Il fait cette brèche en s'incarnant. L'humanité de Jésus va être la porte pour toucher la divinité de manière totale et nous pardonner nos fautes. C'est la porte d'entrée. Maintenant, la porte d'entrée, une fois qu'elle est ouverte, il va donner la lumière. Cette porte d'entrée va nous éclairer. Et c'est la deuxième finalité de l'incarnation. C'est le fait que nous connaissions vraiment Dieu. En Jean 1, 18, Saint Jean dira « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » C'est-à-dire que vraiment, qui est vraiment Dieu, nous ne le connaissons pas. Nous pouvons avoir des idées sur Dieu, nous en avons parlé, nous pouvons pressentir qu'il existe, ou au moins rationnellement le démontrer. Et Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Mais la pleine connaissance de Dieu, la rectification de toutes les erreurs et la révélation absolue de Dieu se fait dans l'humanité de Jésus. Pourquoi ? Parce que l'humanité de Jésus, Jésus, va nous enseigner totalement qui est Dieu dans ses actes, dans ses paroles, dans ses silences, dans ses regards. La manière de vivre de Jésus dit les mœurs divines. La manière dont Jésus parle dit l'amour du Père pour moi. La manière dont Jésus va mettre la main sur un pauvre, va relever quelqu'un, va guérir, dit l'amour miséricordieux du Père pour cette personne. Et finalement, Jésus, en Jean 14, 9, dira « Qui me voit, voit le Père ». Ça veut dire Jésus, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses regards, dans ses silences qui ne jugent personne, nous enseigne sur qui est Dieu réellement. Et il révèle totalement la divinité, puisqu'en lui, il nous dit qui est le Père, il nous dit que Dieu est Fils aussi, et il nous dit aussi que Dieu est Saint-Esprit. Il révèle absolument la Trinité. Et il révèle toute l'histoire en parlant, en enseignant, il accomplit les Écritures, il dit qui est vraiment Dieu, il explique les Écritures, donc il explique toute la révélation. Et il rétorque les erreurs. Quand, par exemple, les Juifs lui disent « Un homme a été marié une fois, un homme a été marié une fois, un homme a été marié une fois, avec qui il sera au ciel ?» Enfin, une femme a été mariée une fois, une autre fois, etc. Avec qui il sera au ciel. Et Jésus va dire des choses par rapport à la condition angélique, mais il dira aussi « Vous vous trompez, Dieu est le Dieu des vivants, non pas celui des morts. » Ça veut dire qu'on voit là que Jésus enseigne quelque chose, il rectifie des connaissances faussées. Donc Jésus, l'humanité, Jésus en son humanité, Dieu en son humanité, nous redonne tout le message de la foi. La plénitude de la révélation nous corrige nos erreurs. Donc il est là, deuxièmement, le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions parfaitement l'amour de Dieu, que nous connaissions Dieu. Si je prends à nouveau l'exemple de la pièce, on a fait un trou, on a fait une porte. C'est Jésus, l'humanité. Cette porte nous donne la lumière à travers ses gestes, à travers ses paroles, à travers son silence et ses regards. La porte a dit aussi « Je suis la lumière du monde ». Ça nous permet de connaître vraiment qui est Dieu. Mais cette porte, qui est le Christ dans son humanité, cette porte qui est la lumière dans ses paroles, ses gestes, elle est aussi, il dit aussi « Venez et vous verrez. Maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. Viens, suis-moi. » Et la foi chrétienne, depuis des siècles, a été comprise comme se mettre à la suite du Christ. Nous sommes dans l'année de la vie consacrée. La vie consacrée, la tradition nous enseigne, par exemple les vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, on dit que c'est se mettre à la suite du Christ. Le terme latin, c'est « sequela Christi », se mettre à la suite du Christ. Ça veut dire quoi ? Mais tout chrétien est invité, à sa manière, à se mettre à la suite du Christ. Ça veut dire imiter Jésus-Christ. Et peut-être l'un des plus grands livres de spiritualité qui avait inspiré Ignace de Loyola et Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne le gardait tout le temps sur elle, c'est l'imitation de Jésus-Christ. C'est la troisième raison de l'incarnation du Verbe. Jésus s'est incarné pour que nous l'imitions. Il s'est incarné pour que nous apprenions ses paroles, pour que nous prions comme lui. Seigneur, apprends-nous à prier, pour que nous l'imitions dans ses gestes. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les cœurs purs. Quand Jésus décline les béatitudes, il décline son portrait robot. Il a vécu à plein les béatitudes et il nous invite à les imiter. Et donc, on va voir que le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui voit clair, qui a accès au salut, mais qui est invité à imiter. C'est-à-dire, tu vois la lumière qui t'instruit, la porte t'a donné accès à Dieu, passe par la porte maintenant, passe par la porte, tu suis le Christ. Donc, Dieu nous a invités à le suivre, à l'imiter. Pourquoi il fait ça? On va en parler tout à l'heure. Pour restaurer notre humanité. Saint Augustin a dit, Dieu t'a créé sans toi et il ne te sauvera pas sans toi. C'est-à-dire, nous sommes coopérateurs de notre salut. Si Dieu nous donne le salut en Jésus-Christ, pour accueillir ce salut, il faut collaborer, il faut impliquer sa liberté. Et cette implication implique l'imitation, parce que l'amour veut imiter. Et l'amour qui imite est transformant. Et ainsi, notre humanité est transformée comme l'humanité de Jésus. Et ainsi, nous redevenons ce que nous voulons, ce que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire être des hommes et des femmes saintes. Parce que Dieu, quand il s'incarne, il est le vrai Dieu qui devient le vrai homme. Il est notre modèle d'humanité. Il n'y a pas d'autre modèle d'humanité que l'humanité de Jésus. J'allais dire, c'est qui un vrai homme? Un homme comme il faut, c'est Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes estropiés qui réapprenons à être comme il faut en Jésus. Et ça passe par l'exercice de la vie, de l'imitation de Jésus. Cette imitation va nous conduire à la sanctification, c'est-à-dire, si comme disent les pères de l'Église et ce que nous avons chanté, notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'homme, en Jésus-Christ, va pouvoir être glorifié. Le corps glorieux, la résurrection, c'est l'aboutissement d'un processus de sanctification en nous-mêmes. Par le Saint-Esprit en nous, par la force du Christ en nous, les traits de Jésus vont s'imprimer en nous. Et petit à petit, on pourra dire, lui, il a la bonté de Jésus. Lui, il dit quelque chose comme Jésus. Lui, il a la patience du Christ. Et les saints, nous le voyons, ont reflété quelque chose des traits du caractère du Christ. Selon leur génie propre, sans jamais être défigurés, sans jamais être une personnalité amoindrie, ils ont développé leur potentiel. J'allais dire, ils se sont personnalisés plus qu'ils ne l'étaient. Parce que la vraie personne, c'est Dieu. Dieu personnalise quand on va vers lui. Et ils se sont personnalisés, mais sous les traits de Jésus. Et donc, quelque part, ils se sont rentrés dans la gloire du Christ. Et ils ont reçu sa divinité. Ils ont pris part à la Trinité. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Et c'est ce que dit l'Église quand l'Église nous dit, en Saint Pierre 2, deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 4. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Participants de la nature divine. Et Thomas d'Aquin a cette phrase forte, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fît les hommes Dieu. C'est fort. Donc vous voyez, accès au salut, pardon en Jésus, ouverture de la porte, enseignement de qui est le vrai Dieu, éclairage, lumière, par les faits et gestes, les regards, les silences, sa vie cachée, tout est méditation sur comment vit Dieu, les mœurs divines. Appel à l'imitation, appel à la collaboration en vue d'être transformé. Finalité de la transformation, entrer dans la gloire, divinisation de l'être humain. Voilà les quatre fins de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu s'est incarné pour ça. Quelque part, il veut nous intégrer dans la Trinité. Alors, on va développer maintenant quelques éléments sur Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Et vous allez voir, c'est un peu complexe. On ne va pas complexifier la chose, ça a été des débats théologiques pendant des siècles, mais on va donner quelques petits éléments qui semblent importants à notre méditation et qui vont surtout nourrir notre foi, un peu notre intelligence et nous aider dans l'évangélisation. Alors, Jésus n'est pas un sous-homme. Jésus n'est pas un sous-homme. C'est-à-dire, Dieu s'est incarné, mais bon, comme il est Dieu, il n'a pas vécu tous mes problèmes. De toute façon, il était Dieu, il pouvait faire ce qu'il voulait. De toute façon, il n'a pas vraiment souffert, parce que s'il avait souffert, il aurait été comme moi, il aurait pu renier, il aurait pu douter, il aurait pu... Donc il n'est pas vraiment comme moi, en fait, donc c'est de la triche, il a fait semblant. Donc en fait, finalement, son humanité, c'est un peu un mode pantin. C'est quelque chose, un manteau qu'il a mis sur lui, mais à tout moment, il enlève son manteau, puis tout va bien pour lui. Donc il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. On pourrait dire ça. On pourrait dire Dieu, il a menti. Et donc ce n'est qu'une apparence. Donc en fait, il a pris l'apparence humaine, mais il ne s'est pas vraiment fait homme. Non, non. Dieu s'est vraiment fait homme. Il a eu un corps, une âme d'homme, un corps d'homme, une volonté d'homme. Il a appris des choses en tant qu'humain. La Vierge Marie et le Saint Joseph l'ont certainement enseigné à lire la parole de Dieu, à réciter les psaumes. Il a appris un travail. Il a dû apprendre à marcher, donc peut-être il a trébuché. Il a dû rire, mais il a pleuré. Il a appris la faiblesse humaine et il l'a connue. Il a connu tous les moments de l'être humain. Vrai homme. 100% vrai homme, pur jus vrai homme, en même temps 100% pur jus vrai Dieu. Vous voyez, le risque, c'est la restriction. C'est ok, 100% Dieu, mais un petit peu homme, pas trop. Ou alors, 100, et on va voir, 100% homme, mais allez, j'enlève un petit peu de Dieu. Parce que c'est, non, il ne peut pas. Non, non, on va voir 100% Dieu, 100% homme. Et c'est un paradoxe. Et nous devons tenir ce paradoxe parce que c'est stimulant pour la foi et ça dit quelque chose du mystère. En gros, on ne comprend pas. Mais c'est normal. Parce que c'est un mystère. Vrai Dieu, vrai homme. C'est pas un sous-homme, il a vécu véritablement notre humanité, il a vraiment souffert, il est vraiment mort. Dieu est mort en son humanité. Et il a vraiment souffert, il a vraiment connu la trahison, il a vraiment connu d'être laissé seul, il a vraiment connu l'angoisse, à des degrés infiniment supérieurs que nous. Et on va voir tout ça. Et en même temps, c'est pas un surhomme. Ah oui, mais il était parfait. De fait, l'Écriture dit que c'était peut-être le plus beau des enfants des hommes. D'accord, il était parfait. Et il convenait peut-être qu'il soit dans un état de santé physique pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour qu'il soit en état de parler conformément. D'accord. Mais ce n'était pas un surhomme. Il avait faim, il avait soif. Il a dit à ses frères disciples, vous n'êtes pas capable de tenir avec moi une heure de prière. Il s'est plaint. Il a dit à la Samaritaine, j'ai soif. Il était fatigué. Ce n'est pas un surhomme, c'est un homme. Vrai Dieu, vrai homme. Pas un sous-homme, vrai homme, mais pas un surhomme, un homme. C'est vraiment l'humanité de Jésus. Cette humanité, donc, il a appris des choses. Et en même temps, c'est vraiment Dieu. Et ce n'est pas un sous-Dieu. C'est-à-dire que même si il a appris des choses, même si il a pu souffrir, même s'il a pu avoir faim, il reste parfaitement le Dieu tout-puissant et le Dieu qui sait tout. C'est mystérieux. Comment Dieu peut-il apprendre quelque chose s'il sait tout? Est-ce que Jésus, dans son humanité, savait les théories quantiques d'Einstein ou etc.? Lui qui a créé le cosmos en sa divinité? Certainement pas. Mais Dieu sait tout en sa divinité. Le Fils de Dieu en sa divinité sait tout. Et en même temps, il apprend, il accepte d'apprendre. Et les deux sont liés, vous voyez, et c'est mystérieux, on n'arrive pas à comprendre comment c'est lié. C'est le mystère de la conscience du Christ, mais les deux sont liés. Et par moments, c'est à fleur de peau, c'est très clair. On le voit dans Luc 2, à la fin du deuxième chapitre de Luc, quand Jésus a 12 ans, va au temple, il enseigne les rabbins, il pose des questions, il répond, il enseigne les rabbins. Ils sont épatés du génie qu'ils ont en face d'eux en connaissance de l'Écriture. Et ce jour-là, Saint Joseph se prend une claque monumentale, puisque Marie et Joseph, qui le cherchent depuis 3 jours, vont dire, mon enfant, nous te cherchions, nous étions tout angoissés. Et Jésus de répondre, ne savez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père? Il proclame sa divinité. J'ai qu'un seul Père, c'est le Père du ciel. Je suis le Fils éternel. Les autres n'ont pas compris, mais la Vierge a compris. Il proclame sa divinité et il enseigne. Donc il a un savoir divin en lui. Il a un savoir divin. Et en même temps, l'humilité de Dieu qui s'est incarnée, quelques versets plus loin, il repart avec eux et l'Écriture nous dit qu'il leur était soumis. Il croissait en taille, en intelligence et en sagesse. Il accepte d'apprendre. Ça, c'est véritablement la combinaison de l'humanité et la divinité de Jésus. Et on retrouve cela une autre fois, quand Jésus va monter, les disciples montent au temple, et Jésus, quelque part, ne veut pas monter avec eux, mais l'Écriture nous dit qu'il va monter plus tard. Et il dira juste avant, l'écrivain sacré dira, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, parce qu'il est Dieu, et qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et quand on est en face de Jésus, on a véritablement le Dieu Tout-Puissant qui connaît tout, même s'il est faible en son humanité et qu'il apprend et qu'il a des désirs et qu'il parle par son humanité, qu'il agit par son humanité, c'est toujours le Dieu Tout-Puissant qui agit à travers cette humanité. Ce qui fait que toucher l'humanité de Jésus, c'est toucher le Dieu Tout-Puissant. Ce qui fait que les paroles humaines de Jésus sont aussi les paroles du Dieu Tout-Puissant et que le Dieu Tout-Puissant connaît les cœurs. C'est un mystère. On n'en finit pas de regarder le Christ et de voir, en fait, c'est pour ça que la vérité catholique, et c'est une vérité qui proclame haut et fort l'incarnation du Christ. C'est pour ça que nous avons des représentations de l'image du Christ. C'est pour ça que nous avons des œuvres d'art. C'est pour ça que le jour du Vendredi Saint, nous vénérons et nous embrassons la croix. Parce que nous touchons l'humanité de Jésus. Et en voulant toucher l'humanité de Jésus, nous voulons toucher la divinité dans le Christ. Et c'est pour ça qu'un sacrement, c'est le prolongement de l'humanité de Jésus. C'est même pas le prolongement, c'est l'humanité de Jésus. Je touche un sacrement, je touche le corps de Jésus. Ceci est mon corps. Et en touchant le corps de Jésus, je touche sa divinité. C'est quoi l'Eucharistie? C'est l'âme humaine de Jésus, le corps humain de Jésus, la divinité de Jésus. C'est Dieu, vrai homme, dans l'Eucharistie. Tu touches Jésus, tu touches son humanité, et dans son humanité, tu touches sa divinité. C'est le mystère de l'incarnation. Et donc, ce mystère de l'incarnation, je voudrais dire aussi, quand nous regardons la statue de la Vierge Marie, que le Fils de Dieu a pris les traits d'homme et il devait ressembler à Marie dans ses traits, puisque Marie est sa mère biologique. Devait ressembler de trait à Marie. Donc il a accepté, j'allais dire, « Ah, toi, tu ressembles à ta mère. » Vous savez, on nous dit ça souvent. Eh bien, c'est vrai pour Jésus. Voilà. C'est pas un extraterrestre. Il avait des grands-parents. Il a toute une histoire. Il a assumé la vérité familiale. Et si nous parlons, donc, vrai Dieu, vrai homme, nous allons aborder maintenant des points un tout petit peu plus compliqués, mais importants. Je vais prendre l'exemple d'un néon et de la terre. Donc la terre, voilà, de la terre et un néon, et une tomate et une bombe atomique. Ça paraît un peu contrasté, mais c'est pour vous expliquer les choses. Imaginez une bombe atomique qui explose, qui est dans une tomate. La tomate, elle vole en 1000 morceaux, même pas en 1000 morceaux, en 1000 atomes. Et même pas en 1000 atomes, je sais pas, mais elle explose, quoi. Ok, on peut imaginer la tomate, j'invente, mais qui fait le tour de la planète dans ses morceaux, tellement elle explose. Quoi. On est d'accord? Ok. Ce qui serait extraordinaire, c'est que la tomate, il y a une implosion dans la tomate, et la tomate n'explose pas. Vous direz, ça c'est la tomate costaud. Hein. D'accord? C'est exactement ça pour l'incarnation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, en fait, ce qui est extraordinaire, évidemment, c'est que Dieu se soit fait homme. Mais que Dieu se soit comprimé, a comprimé toute sa gloire dans l'humanité de Jésus. C'est-à-dire, en fait, l'humanité de Jésus, normalement, elle est resplendissante. Elle les dégage de la gloire en permanence. Et parce que le Fils de l'homme a voulu être humble, il a comprimé sa gloire de Dieu. Et il n'y a que dans certains gestes qu'on reconnaît dans la foi, que dans certaines paroles, où nous avons une trace de lumière qui nous invite à croire en lui. Et nous le touchons dans la foi. Et c'est pour ça que l'hémorroïde, qui le touche dans la foi, elle a la décharge électrique de la bombe nucléaire, quoi. Et elle est sauvée. Mais généralement, ça ne se voyait pas trop. Parce que Dieu a comprimé sa gloire en son humanité. Il s'est abaissé. Mais par moments, il va mettre le paquet et la bombe n'explose pas et la tomate n'explose pas parce que Dieu honore son humanité. Il ne déchiquette pas son humanité. Il la maintient dans tout son être. Mais vous avez ce phénomène-là, la transfiguration. Le Christ révèle sa gloire. La divinité apparaît sur l'humanité de Jésus. Et c'est son mode normal. C'est son mode normal. C'est ça l'incarnation. Et à la résurrection, le mode normal, c'est la gloire du Christ. Mais dans tout son parcours humain, ici-bas, il a caché sa gloire pour se rendre accessible. Vous voyez, Dieu a comprimé sa gloire. Dans l'Eucharistie, la gloire de Dieu est comprimée. Il la révèle parfois de manière surnaturelle et il en montre, j'allais dire une extase, il en montre, c'est son petit doigt. Il ne montre pas tout. Mais il a comprimé sa gloire. Et ce qui est très beau, c'est que tout réside ainsi. Dieu a voulu être humble. Vous voyez, la tomate n'a pas explosé. Notre phénomène, c'est le néon. On peut prendre le même exemple du néon. Vous imaginez un néon bien brillant qu'on regarderait en face et qu'on serait aveuglé. Mais littéralement aveuglé. L'incarnation, il s'est fait chair. C'est noble ce que je vais dire. Il s'est mis dans la terre. Adam, c'est le terreux, étymologiquement en hébreu. C'est le terreux. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Il s'est mis dans la terre. Il n'a pas pris une enveloppe, simplement un manteau. Il s'est fait terre. Il s'est fait homme. Ok. Mais ça reste, n'empêche, un néon lumineux, plein de gloire. Et quand Jésus parle, par moments, il y a des parcelles de lui qui se mettent à briller. Il y a une parole de lumière qui va toucher le cœur. Il y a un geste qui va percer à travers son apparence humaine. Parce que c'est la divinité qui affleure le Christ. Et par moments dans la résurrection, par moments dans la transfiguration, le néon va tout éclairer et la terre dont il est pétri parce qu'il s'est fait homme se met à briller. Et c'est la résurrection, c'est la glorification, vous voyez ? Donc s'il est important de dire, Dieu a en permanence cette gloire en lui. Le Fils de Dieu était en permanence dans la gloire. Très intéressant. C'est-à-dire que Jésus n'a pas la foi. Jésus n'a pas la foi. Dire que Jésus a la foi, c'est une hérésie. Parce que le Fils de Dieu n'avait pas besoin d'avoir la foi. Il voyait Dieu, même incarné. Il voyait Dieu. Parce que même s'il s'est incarné, le Fils éternel était toujours dans la Trinité. C'est un mystère absolu, c'est un truc de fou. Il n'a jamais quitté la Trinité. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'a jamais quitté la Trinité. Il était toujours dans la gloire. Et ça c'est très fort. Et donc, quelque part, il était toujours en présence de Dieu, tout en étant parmi les hommes, et avec un corps fragile, une âme fragile, une volonté fragile. Il était toujours dans la gloire. C'est ça le vrai Dieu. Donc, comme il voyait Dieu, et il n'a pas besoin de foi. Au ciel, nous n'avons pas la foi. La foi et l'espérance et la charité, nous dit Paul en 1 Corinthiens 13, nous aident à avancer vers Dieu, c'est les vertus théologales. Mais au ciel, il n'y a plus que la charité, puisque ce que nous avons, ce que nous espérons, et nous voyons ce que nous croyons, nous n'avons plus besoin de croire. Or, Jésus est dans la vision béatifique. Il est dans la vision qui rend bienheureuse, qui rend joyeux. Il est perpétuellement dans la joie de Dieu. La joie du Père et du Saint-Esprit, le Fils éternel. Donc il voit Dieu. Et c'est pour ça qu'il enseigne aussi bien. Parce qu'il voit Dieu en permanence et qu'il en parle avec des paroles d'homme. Le vrai Dieu fait homme. Il n'a pas besoin d'avoir la foi. S'il avait la foi, ça veut dire qu'il ne serait pas dans la gloire de Dieu. Qu'il ne serait pas vraiment le Fils éternel. Ce serait un homme qui aurait un don surnaturel, mais qui ne serait pas le Fils éternel, qui serait en pleine vision de Dieu, vous voyez ? Il y aurait une contradiction. C'est parce que bien souvent, nous avons voulu quelque part humaniser Jésus plus qu'il s'est fait lui-même homme, en disant il a dû vraiment énormément douter, il a dû être comme nous, etc. Donc il faut qu'il ait la foi. Ben non. Il est vrai Dieu, vrai homme. Et c'est quelque chose d'unique. Ça, c'est important. Et ça entraîne le fait que, du coup, le péché chez Jésus a une implication encore plus forte que nous. Parce que, voyez-vous, Jésus va sentir la nuit, il va sentir l'agonie, il va sentir la persécution du péché, Imaginez quelqu'un qui est dans la pleine lumière et qui voit l'obscurité et qui est offensé par l'obscurité. Ça le tache extérieurement. Il n'est jamais corrompu parce qu'il ne prend pas part au péché. Le péché l'a attaqué dans son âme et son corps, mais jamais il n'a pactisé avec le péché. Il a connu notre humanité, mais il n'a jamais péché. C'est la seule différence, il n'a jamais péché. Et donc, quelque part, dans l'agonie, par exemple, le péché est entré par tous ses pores, jusque dans son âme. Il a été angoissé, il a souffert énormément. Il a été comprimé très fortement. Et ça a dû être terrible. Et en même temps, il était toujours Dieu. Et au fond de lui-même, il y avait l'union permanente du Fils éternel au Père éternel, dans le Saint-Esprit. Il y avait Dieu qui était uni, toujours. Vous voyez, c'est important. Ça veut dire que quelque part, c'est toujours Dieu qui prie aussi dans la passion du Christ. C'est toujours Dieu qui prie sur la croix. C'est toujours Dieu qui est là. Ce n'est pas simplement un homme, c'est Dieu qui est là, qui a tout comprimé, mais qui est là, et qui encaisse beaucoup de coups, et parce que ces coups sont du péché et que c'est contraire à sa nature, ça lui fait encore plus mal que nous. Et ça lui fait mal à un degré qu'on n'imaginera jamais. Voilà. Dieu ne souffre pas en lui-même. Dieu est parfaitement joyeux. Dieu est parfaitement, j'allais dire, tout créatif, mouvement, mais il n'a pas besoin de se rajouter quelque chose pour exister. Il existe et puis c'est tout. Mais par l'humanité de Jésus, Dieu a appris à souffrir. Dieu a dit « Aime-moi ». Et quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », Pierre, m'aimes-tu ? C'est à la fois l'humanité de Jésus, mais c'est Jésus, Fils éternel, qui dit à Pierre « Est-ce que tu veux m'aimer, toi, Pierre ? Est-ce que tu veux aimer ton Dieu ?» Voyez ? Par son humanité, Jésus, Dieu, a eu soif, a eu faim, a eu soif d'amour. J'ai soif. Et donc, ça nous amène à découvrir que le Christ, dans sa vie humaine, nous dit quelque chose de Dieu. On en a parlé, c'est la lumière. La deuxième raison, Dieu nous instruit. Mais plus profondément, on a appelé ça les mystères de la vie de Jésus. Vous avez ça dans votre chapelet. On appelle ça les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères lumineux avant, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Ce sont des résumés de la vie de l'Évangile, du Christ, de la vie du Christ dans l'Évangile, et ce sont un peu des points capitaux. Les moments joyeux nous disent quelque chose du mystère de la joie et de l'incarnation du Christ et de sa vie cachée. Les mystères lumineux nous disent quelque chose de la vie apostolique du Christ et de sa vie d'adulte, et j'allais dire de la vie chrétienne, annonce de l'évangélisation, écoute de la parole de Dieu, prière, eucharistie, baptême. Les mystères douloureux nous disent quelque chose de très fort, et si, disent les saints, je crois, je m'avance, c'est Thomas d'Aquin qui doit dire ça, mais je m'avance peut-être, contempler la passion du Christ, c'est le lieu par excellence pour l'aimer. Contempler la passion du Christ, c'est découvrir l'amour de Jésus pour moi de manière excellente. La passion du Christ, les lieux douloureux, mais les lieux aussi qui peuvent être repris par la vie du chrétien, et les mystères glorieux. Voilà. Alors, et vous voyez, mystère glorieux, c'est la fin, mais on aurait pu les mettre au début, c'est ce Dieu de gloire qui s'est caché, comprimé, qui rentre dans tous les mystères et qui un jour réapparaît, tel qu'il est. Et alors, les mystères de la vie du Christ, c'est Jésus qui les a vécus, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été fait à une certaine époque, dans une circonstance particulière. Ok, il a appris le métier de charpentier en Palestine, ok. Donc moi je travaille dans une entreprise en Vendée, rien à voir, ok. Il a vécu il y a un peu plus de 2000 ans, et puis historiquement il y a 2-3 petites dates fausses, mais grosso modo un peu plus de 2000 ans, ok. Moi j'habite aujourd'hui, je suis sur Facebook, etc., rien à voir. On pourrait multiplier les différences, ok. Ça c'est au niveau de son humanité. Mais parce que c'est Dieu qu'il l'a vécu, ça a un poids d'éternité, ça a un poids de tous les temps. Parce que Jésus, il est mort une seule fois sur la croix, ok. Mais parce que c'est Dieu qui a accepté de mourir en son humanité, ce salut s'est offert pour tous les hommes avant et après lui dans l'histoire. Et donc ça veut dire que les faits et gestes de Jésus, même s'ils sont datés, même s'ils sont limités dans le temps, ont une valeur éternelle. C'est-à-dire qu'on peut dire « Jésus a vécu ça pour moi, Au-delà du simple fait et geste culturel, Jésus a vécu quelque chose de pour moi. Il a voulu vivre l'enfant, être un enfant pour moi, enfant. Il a voulu vivre le mourant, l'agonisant, pour moi, mourant, agonisant. Il a voulu vivre celui qui partage la vie des autres, pour moi, qui essaye de partager la vie des autres. Il a voulu vivre chaque chose. Et il a pensé à chacun d'entre nous en vivant ce qu'il vivait. Parce qu'il est Dieu et qu'il n'est pas limité par l'espace et le temps. Et donc le mystère de la vie de Jésus, c'est Dieu qui a voulu rejoindre en une seule humanité tous les hommes de tous les temps. En disant, je vis ça, mais je le vis pour toi qui un jour me connaîtra. Je le vis. Plus fortement encore, le baptisé peut dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si Jésus l'a vécu pour moi, vous voyez, c'est ça, contempler les mystères de Jésus. Ce que tu as vécu, Seigneur, tu m'instruis sur qui est mon Père, sur qui est le Saint-Esprit, parce que tu es la lumière dans tes faits, gestes et tes paroles. Ok, tu m'invites à t'imiter, mais tu l'as vécu pour moi. Ça, contempler le mystère dans le chapelet ou dans la Lectio Divina quand on regarde l'Évangile, c'est contempler. Tu l'as vécu pour moi. Mais plus fort encore, c'est quoi vraiment un chrétien ? Paul fait cette expérience sur le chemin sur le chemin de Damas. Il fait cette expérience, il croit en Dieu. Ok, Seigneur. Et puis, le Seigneur se révèle en lui en lui disant, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? C'est une révélation extraordinaire pour Saul. Je n'ai pas tout compris, mais je peux dire un point. C'est que Saul a compris ce jour-là que toucher un chrétien, c'est toucher au Christ. Parce qu'il comprend que Dieu est le Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Il sent Dieu, il dit « Je suis Jésus ». Ok, Dieu, c'est le Christ. Ok. Mais il comprend en plus qu'il n'avait jamais touché Jésus. Mais qu'en touchant un chrétien, parce qu'il en a persécuté, il a touché le Christ. Donc il a compris aussi que les chrétiens, ils étaient unis au Christ. Et tu touches un chrétien, tu touches le Christ. Et Paul va réfléchir sur cela. Et il va développer sa théologie de l'Église qui est « Nous sommes le corps du Christ, le corps mystique ». Pourquoi ? Parce que dès le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Dès le baptême, Jésus a pris mon humanité. Il m'a saisi. Et donc tu me touches, tu touches à Jésus, parce qu'il y a le Christ qui vit en moi. Et parce que le Christ veut continuer sa vie en moi. Et c'est ce que dirait Élisabeth de la Trinité, « Nous donnons au Christ des humanités de surcroît ». Je donne mon humanité pour que le Christ continue à vivre en moi. Et si nous nous laissons déployer le Christ par collaboration de la grâce, c'est-à-dire le Seigneur nous investit, mais en même temps on participe, imitation, je le médite, je le contemple pour savoir comment il est, je l'imite, et bien le Christ me transforme et c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous voyez la valeur de notre humanité. Et un chrétien, c'est véritablement, c'est appelé à être un autre Christ. Et donc, c'est ça le sens profond de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne à moi pour se faire chair en moi, pour que je vive de lui et plus profondément qu'il vive en moi. Et donc, j'apprends à prier en regardant l'humanité de Jésus, non pas simplement Jésus, mais comme Jésus, avec Jésus. C'est extraordinaire, par exemple, ça m'avait beaucoup marqué, saint François d'Assise qui regardait un crucifix, regardait le Christ, mais plus encore, priait le Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Saint François d'Assise s'était identifié au Christ. Il était crucifié comme lui, il priait son Seigneur comme lui, le Père. C'était une autre prière christique. C'est l'aboutissement de la vie chrétienne. Nous sommes rentrés dans la Trinité, et là nous sommes divinisés. Vous voyez ? Donc Dieu s'est fait homme pour tout ce processus. On pourrait dire encore beaucoup de choses aussi sur le cœur de Jésus. Vous voyez toute la spiritualité du cœur de Jésus, du cœur qui bat. Dieu m'a aimé avec un cœur d'homme. Et les pulsations du cœur de Jésus sont des pulsations d'un cœur d'homme et en même temps c'est de l'amour divin. C'est de l'amour divin. Et quand vous voyez l'Eucharistie, c'est bien le corps l'âme et la divinité de Jésus. C'est bien le Sacré-Cœur. Ça veut dire qu'il y a Dieu, qu'il y a des pulsations dans l'Eucharistie. C'est extraordinaire, absolument extraordinaire. Et vous savez, il y a eu des miracles eucharistiques où on a vu des morceaux de muscles du myocarde. Pour vous dire, le Seigneur, il a donné un signe, il a donné un signe. Mais sans le voir, on touche à quelque chose de fort, là. Voilà, aucun de nous et aucun d'homme sur terre ne reçoit pas des grâces que par l'humanité de Jésus. L'Église nous dit ça. Les solutions qui envisageraient une action salvifique, une action de salut, de Dieu hors de l'unique méditation du Christ, seraient contraires à la foi chrétienne et catholique. Ça veut dire quoi? Que tout passe par l'humanité de Jésus. Tout passe par l'humanité de Jésus. Le musulman, le bouddhiste, l'athée, l'agnostique, l'hindou seront sauvés par l'humanité de Jésus. Parce que Dieu, en se faisant homme, sauve tous les hommes en son humanité. Voilà. Donc notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Et bien que le Seigneur nous garde dans cette méditation et qu'il nous aide à nous préparer à Noël. Amen.